Kompass bringt fremde Kulturen ins Rübliland. Kompass, jetzt auf Kanal K.
Fenêtre sur Afrique avec Sylvain Amos et son équipe, Romain Koudjodi, Lucien Roncalli, Fabi Kouassi, Josué Maoli et Esteban Gagno. Fenêtre sur l'Afrique, c'est sur Radio Canal K.
Bonsoir Togo, bonsoir Côte d'Ivoire, Accra, N'Djamena, bonsoir Guinée, Conakry, Mali, Mali, Sénégal. Amis panafricanistes, merci de nous rejoindre encore une fois sur le www.canalk.ch dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique pour ce grand débat sur le retrait des pays africains de la CPI, retrait que demandent les chefs d'État africains réunis il y a quelques jours à Addis Abeba. La deuxième partie de ce débat sera consacrée justement à ce sujet-là. Nos invités nous attendent déjà en ligne depuis la France. En première partie, on avait reçu Monsieur Pierre Sané, adjoint citoyen togolais, et également Maître Seri Zoukou qui réagissait également depuis Bruxelles. Merci à ces invités. Nous allons lancer la deuxième partie d'ici quelques temps, mais bien avant cela, nous allons faire encore un petit tour au Togo. Et justement, nous allons prendre notre correspondante Fabi Kouassi, et qui, bien évidemment, nous a fait une réflexion et sur la crise qui sévit actuellement à l'UFC, Union des Forces de Changement. Fabi Kouassi a titré donc cette réflexion « Jipiso Olympio ». Le prix de la trahison. Nous vous proposons de l'écouter dans un moment.
Sylvain Amos, bonsoir. Bonsoir à nos auditeurs de Fenêtre sur l'Afrique. La nouvelle d'une énième scission au sein du parti de l'opposant, jadis historique et charismatique, fait la une des journaux et alimente les conversations les plus anodines. Et pourtant, l'Union des Forces de Changement de Gilchrist Olympio, puisque c'est de ce parti qu'il s'agit, ne devrait avoir autant d'égards de la part d'un peuple que le fils du père de l'indépendance du Togo, Sylvanus Olympio, a trahi de la pire des manières. Suite au revers qu'ont essuyé M. Olympio et son parti au lendemain des législatives de juillet 2013, avec seulement 3 petits sièges à l'Assemblée nationale, l'opinion a eu vent des rififis entre ce qui reste des responsables de ce parti. Pour rappel, l'UFC était déjà une coquille vide depuis la première scission qui a vu naître l'ANC, l'Alliance Nationale pour le Changement, et le départ de la plupart des responsables, membres et sympathisants du parti du Détia. Rififi qui ont abouti à l'exclusion de 4 responsables du parti de Gilchrist, version coquille vide. Le conflit actuel semble en croire un des exclus, un conflit de génération où les vieux incarnés par Gilchrist Olympio sont taxés de traîtres car voulant se fondre dans le parti de Forgnan Simbé pour mieux manger. Et les vieux ont vite fait de se débarrasser de la bande des talibans qui demandent un peu trop de comptes à des vieux qui ont toujours fonctionné comme dans une épicerie. Et ça, ce sont les habitudes de la maison UFC version originelle qui a suscité espoir avant de se révéler un gros canular. À voir de près la position des uns et des autres quand dans l'UFC on veut s'attaquer entre pro-unir et pro-force de changement, ça fait quand même sourire. L'UFC, des lendemains de la frauduleuse de mars 2010, a contracté le mariage contre nature avec Forgnan Simbé et a fait le choix de suivre la dictature que de lutter aux côtés du peuple meurtri. La politique de mangeons un peu avec 7 portefeuilles ministériels, quelques députés à l'Assemblée nationale et quelques nominations fantaisistes ici et là dans quelques institutions de l'État. Où était le quatuor qui crie aujourd'hui scandale quand le fils de Sylvanus Olympio a organisé contre tout bon sens et en violation des tests de la République la révocation des députés apparentés à ANC? Sans doute ils ont sablé le champagne et voilà un qui peut se retrouver dans la situation des députés révoqués. Où était le quatuor qui retrouve subitement les réflexes de la lutte quand le pouvoir UFC-RPT unir a organisé la répression des manifestations pacifiques? Où était le quatuor quand le pouvoir continue d'exceller dans la torture, les arrestations arbitraires, la dilapidation des ressources du pays, les incendies des édifices, l'assassinat de Anselme Sinandaré et de Douti Sinaleng, les exemples du mal-être du Togo du fait de la gestion calamiteuse et approximative par la clique dirigeante sont plutôt légion. L'UFC de Gilchrist Olympio n'a jamais été pour la lutte dans laquelle les Togolais se sont engagés au péril de leur vie depuis des décennies. Gilchrist a trahi et trahira. Il n'est jamais rassasié de la manne financière de la famille Nsingbé ainsi que des cargaisons de 20 pétrus, nous a-t-on confié. Comme tous les traîtres sans aucune conscience et scrupule, tous les cris, tous les écrits ne l'émeuvent guère. Un de ses proches racontera d'ailleurs qu'il n'a jamais imaginé que ce pépé était aussi amoureux de l'argent facile, l'argent de la trahison. Fogil aime l'argent et tout ce qui va avec. De telles faiblesses ne combattent pas une dictature vieille de 50 ans. Une autre anecdote rapporte que le vieux Gil avait des relations séculaires et secrètes avec le régime cinquantenaire, que même si le pouvoir lui était offert, il le redonnerait au Nyasimbe au nom de ce qui les unit. Mais le prix de la trahison se paie cash et se paie cher, et tôt ou tard vis-à-vis d'un peuple qui a mis sa confiance en un homme qui n'en était pas un, que de martyr au panthéon de la démocratie au nom de Fogil. Quel gâchis! Tant de morts que Gilchrist Olympio aura à jamais sur la conscience, même s'il a tué la sienne. Le prix de la trahison, c'est que dans la mémoire collective de génération en génération, la postérité garde de vous l'image d'un traître, d'un néant et de quelqu'un qui suscite beaucoup de dégoût. Toutes ces années de semblant de lutte pour mourir dans les bras de la pire des dictatures, tout ça pour ça, dirait l'autre. Hélas, Gilchrist Olympio et son parti ont vécu.
VRA, Voix de la Résistance Africaine, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique.
Nous restons toujours au Togo. Les hauts responsables du parti UFC, Union des Forces du Changement, l'ont nié plusieurs fois dans leur interview qu'il n'existe pas de crise au sein de leur formation politique. Mais finalement, la goutte d'eau a débordé le vase et les rumeurs sont devenues réalité. L'honorable ex-ministre de la Communication, Dimo Oré, Nicodème Ayao Rabia, Gbeya Timese et Théophile Adjangba, respectivement 3e vice-président, 5e vice-président et 2e trésorier général adjoint et conseiller ont été exclus du parti pour avoir traité le président Gilchrist Olympio d'avoir pris des décisions unilatérales pour l'entrée de l'UFC au gouvernement. Et bien, suite aux élections législatives du 24 juillet dernier, dont les Togolais ont sanctionné l'UFC de Gilchrist Olympio par une gifle électorale, ce parti ras-le-mur est au bord de l'éclatement. Eh bien, amis auditeurs de Fenêtre sur l'Afrique, pour nous permettre de connaître un peu plus les dessous de cette ébullition au sein de ce parti UFC, nous recevons dans un instant un des ex-députés exclus, justement, Nicodème Rabia, que nous allons accueillir dans un moment en direct depuis Lomé.
Le togovie.com, AfriPresa, togoactualité.com, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique.
Patient. Nicodème Rabia, bonsoir.
Bonsoir.
Merci de nous accompagner depuis Lomé. Vous êtes le 5e vice-président de l'UFC Union des Forces de Changement et vous venez d'être exclu de ce parti avec 3 de vos amis. Est-ce que vous pouvez nous donner les raisons pour lesquelles vous et vos 3 amis vous étiez exclus de l'UFC?
Ouais, merci beaucoup. Je voudrais une fois remercier votre passion qui permet aujourd'hui pour éclairer la population togolaise, surtout la diaspora togolaise. Je crois que les raisons de notre exclusion sont très simples. Vous savez, on a fait un accord avec le parti au pouvoir, RPT Unia, qui n'a pas marché. Le peuple n'a pas été d'accord avec nous et on a été sanctionné. Donc aujourd'hui, on n'a plus besoin de continuer cette marche avec le pouvoir en place. Donc c'est ce que nous avons dit. C'est ça qui nous coûte aujourd'hui notre exclusion au sein de l'URC.
Écoutez, Habi, est-ce que vous regrettez maintenant d'avoir travaillé avec le parti au pouvoir, vu que l'UFC avait une position un petit peu radicale au départ?
Vous savez, j'ai connu la prison, j'ai connu l'exil plusieurs fois, donc dans ma vie, quand je me tombe, j'aime me relever. C'est ce qui est important pour moi. C'est ça. J'aime toujours aller de l'avant. Je n'aime pas regarder dans le miroir. Dans le rétroviseur plutôt. Donc, je crois que ce qui importe aujourd'hui, pour nous, et pour tout le peuple togolais, c'est l'alternance politique dans ce pays. Parce que depuis 90, que le peuple togolais a commencé cette lutte. Il y a même nos parents qui ont commencé cette lutte avant nous. Mais jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en a? Et il y a un peu de droit de l'homme et de liberté d'expression. Ça nous aide beaucoup sur le terrain, sur place ici. Donc, je crois que nous, on a fait une expérience avec le parti au pouvoir. Ça n'a pas marché. On n'a pas besoin de continuer. C'est ça. Donc, je vous dis que dire qu'on a regretté quelque chose, non. Mais on a fait une expérience qui n'a pas marché.
D'accord.
Il faut être homme pour dire les choses telles qu'elles sont.
D'accord. Alors, Nicodème Habia, vu ce que vous venez de vivre, votre exclusion au niveau de l'UFC, j'espère que vous n'y croyez pas. Alors, est-ce que vous ne donnez pas raison à vos anciens compagnons de lutte?
À nos camarades, les gens Pierrot. Non, vous savez quoi? Le moment n'est pas créé des polémiques. Pas du tout. Chaque chose a son temps. Comme on a l'habitude de le dire, tout chemin mène à Rome. C'est ça. Nous sommes restés jusqu'à aujourd'hui. Donc, nous, on a eu la chance d'éclairer les autres militants qui sont restés. Et qui sont avec nous aujourd'hui. Et je vous rassure que les fédérations sont avec nous aujourd'hui. On a dit aux gens qu'en 2010, sur 40 fédérations, il y a 38 qui étaient d'accord avec nous. Posez la question à notre président national. Aujourd'hui, combien de fédérations ils ont consulté avant d'aller au gouvernement? Combien de présidents fédéraux? Combien de coordinateurs ils ont consulté? Il y a un camarade qui a posé cette question à la réunion du lundi sur passé. On n'a pas trouvé de réponse à sa question. C'est ça. Donc aujourd'hui, nous, on remercie Dieu que nous avions. On est resté calme. Et tout le monde est d'accord avec nous parce qu'avant qu'on ne soit exclu, il y a eu des groupes de médiation au sein du parti qui nous ont demandé d'aller doucement. Et on a été d'accord avec eux. Aujourd'hui, tous ces gens me donnent raison. Si c'est qu'on était sortis avec fracas, les gens diront, oh Nicodème, vous étiez trop pressé. Ce n'est pas normal. Il faut croire que vous attendez le retour du président national. Mais nous avons attendu son retour. Mais qu'est-ce qu'on a vu? Donc, je crois que aujourd'hui, ce que nous voulons aujourd'hui au Togo, comme je viens de le dire, c'est l'alternance ou rien.
Justement, oui.
Alors l'alternance pour rien.
D'accord, l'alternance pour rien. Si pour vous le combat continue malgré tout, hein, allez-vous rejoindre actuellement le collectif Sauvons le Togo qui mène la lutte au Togo? Sinon, comment comptez-vous continuer la lutte, Nicodème Rabia?
Ouais, vous savez, ce n'est pas seulement le CST qui mène la lutte pour le changement au Togo, il y a aussi l'arc-en-ciel. Vous pouvez
justement
me demander,
oui,
si on peut rejoindre l'arc-en-ciel aussi. Pourquoi faire seulement le CST que vous demandez?
Alors là, je vous donne raison, oui, à l'opposition, à l'ensemble de l'opposition qui continue la lutte. Est-ce que vous allez rejoindre l'ensemble
très
de l'opposition?
Nous sommes avec tous les mouvements politiques, démocratiques, tous ceux qui vont se battre pour l'alternance pour ce pays.
Justement. Alors, vous êtes quatre maintenant à être exclus de l'UFC. Est-ce que vous pourriez affirmer, et comme tant d'autres au Togo qui pensent maintenant que l'UFC est devenu une coquille vide, Nicodème Rabia?
Non. Mais vous savez, on dit souvent chez nous que, dans la vie ou bien chez les éveils, en même temps, on ne bat plus que battre le corps. En même temps, on ne bat plus que battre le corps. C'est à toi-même de dire ce que de John, comment dire, l'importance à ce que tu as. C'est ça. Donc, dire que l'UFC actuel est une coquille vide, moi, je vais pas le dire, mais je sais que ils n'ont plus les hommes du terrain avec eux.
Mm-hmm. Merci beaucoup, Nicodème Rabia, de nous avoir accompagnés depuis Lomé, de nous avoir éclaircir sur la crise au sein de l'UFC. Merci et bonne soirée à vous.
Merci beaucoup. Merci, bonsoir à vous.
Rencontre citoyenne togolaise à Brême en Allemagne. 5 octobre 1990, 5 octobre 2013, 23 ans de lutte non aboutie des Togolais pour la libération de la mère patrie. Il est arrivé le moment décisif de la restauration citoyenne de la République. Le mouvement Kekeli, Tinga en Kabye et Fitila en Kotokoli, lancé par le collectif de résistance de la diaspora CRD, invite la diaspora et les amis du Togo pour réfléchir ensemble sur une vision partagée de la lutte de libération du Togo. Du 16 au 17 novembre 2013 à Brême, en Allemagne. Samedi 16 novembre 2013, 19h à 21h, conférence débat, 21h à 1h, spécial nuit Kekeli, rafraîchissement et cuisine togolaise, tam tam et musique moderne par DJ Don Sean. Pour plus d'informations, contactez 0049 176 255 20 885 ou 0049 228 280 54 21. Ou consultez le programme sur le site web du CRD Togo www.crd-togo.org. Participation gratuite sur inscription par mail au crdtogo@yahoo.com.
Soso glosso zodo Elole.
Togolais de la diaspora, vous êtes tous invités à la rencontre citoyenne à Brême en Allemagne le 16 et 17 novembre 2013.
Soso glosso zodo Elole. Afrikpeto onare amulio Soso glosso mimia Elozalado.
Togolais bien, bâtissons la cité.
Oui d'accord, avion la voie. Oui d'accord, mila trouello, trouello, trouello. Oui d'accord, avion la voie.
Obe toi prenez va. Kemi da kwe, kemi di habe. Nyanto ele di miabe, pou nyanto ele sa miaba kwe. O di la gle sobe nami. O di la gle sobe nami. O Adama we, Libana va mon ami. Oh, oh, di la blesse en mes amis. Oh, di la blesse en mes amis. Adama we, Libana va mon ami.
Olivier Ama et plusieurs acteurs de la lutte contre la violation des droits de l'homme sont toujours en détention au Togo.
Si tous les hommes naissent libres et égaux, tous les hommes ont donc le droit de penser libre et de s'exprimer librement.
Ensemble, soyons des défenseurs des droits de l'homme et œuvrons inlassablement à leur libération. Vive l'état de droit, respectons les droits de l'homme pour un Togo uni et prospère. Togolais, viens, bâtissons la cité.
Le micro de Fenêtre sur l'Afrique avec Sylvain Amos sur Radio Canal K.
Beaucoup d'Africains se posent des questions sur le fonctionnement juridique et géostratégique de la Cour pénale internationale. Depuis son installation officielle en juillet 2002, la Cour pénale internationale a ouvert une procédure d'enquête dans 7 cas, donc tous en Afrique. L'Ouganda, la République démocratique du Congo, la République de Centrafrique, le Darfour au Soudan, la République du Kenya, la Libye et tout récemment la Côte d'Ivoire. L'ex-président libérien Charles Taylor, l'opposant congolais Jean-Pierre Bemba et tout récemment l'ex-président ivoirien Laurent Koudou Gbagbo sont des éminentes personnalités de la vie politique africaine gardées à la haie pour crimes de guerre contre l'humanité. Pourquoi les chefs d'État africains menacent-ils de se retirer de la Cour pénale internationale après avoir signé et ratifié le statut de Rome 11 ans après ? La CPI est-elle véritablement impartiale et compétente pour juger surtout des dirigeants africains? Le néocolonialisme a-t-il une influence sur le jugement de la CPI? Tels sont les sujets de notre débat sur la CPI avec nos invités que nous accueillons tout de suite en ligne, en direct depuis la France. Nous accueillons en premier M. François Fabrega, il est membre de discussion intercollectif à Afrique consacré au panafricanisme. Il est également directeur de communication de CVU Togo Diaspora, CVU collectif pour la vérité des unes. François Fabrega, bonsoir.
Bonsoir Sylvain.
Merci de nous accompagner dans ce débat panafricain. Nous accueillons également notre ami qui est connu de nos auditeurs. Alain Jules intervient souvent dans cette émission. Alain Jules est journaliste, blogueur. Alain Jules, bonsoir.
Bonsoir Sylvain, bonsoir tous les auditeurs de Canal K.
Merci de nous accompagner également dans cette émission. Alors, tout de suite, je me permets de soumettre la toute première inquiétude à Monsieur François Fabrega. Alors, vous êtes au courant, comme nous, hein, il y a quelques jours, les chefs d'État africains se sont réunis à Addis Abeba. Et justement, ils demandent ou menace également le retrait des pays africains de la CPI. Alors pourquoi, selon vous, les chefs d'État africains menacent-ils de se retirer de la CPI, François Fabrega?
Oui, Sylvain, ce débat n'est pas en réalité un débat nouveau. Il faut peut-être remonter à la genèse de cette affaire pour tenter de comprendre ce qui se passe. Je rappellerai ici utilement, à mon avis, c'est Jean Ping, à l'époque président de la Commission de l'Union africaine, devant la 17e session ordinaire de l'UA, c'était, je crois, au mois d'août 2011, avait fait une sortie publique très remarquée, et que l'on peut d'ailleurs toujours voir utilement sur YouTube. Il disait à l'époque, nous sommes pour la lutte contre l'impunité. Nous ne sommes pas contre l'impunité, nous ne sommes pas contre la Cour pénale internationale, puisque 32 pays africains en sont membres. Nous ne sommes ni contre la justice, ni contre la Cour, nous sommes contre la manière dont la justice est rendue. On ne condamne que des Africains. Et ça, ça se passait en 2011. Alors c'est pour ça que la menace proférée aujourd'hui par les pays membres de l'Union africaine de quitter la CPI prend tout son sens, puisque deux ans après cette sortie de Jean Ping, on voit la même Union africaine procéder à un acte politique très fort, puisque pour institutionnaliser sa récrimination, elle vient de consacrer, c'était le 11 octobre dernier à Addis Abeba, un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement pour réexaminer ses relations avec la Cour pénale internationale. Et d'ailleurs, les pays les plus virulents se prononcent contre cette juridiction en n'excluant pas de se retirer du statut de Rome. Il faut aussi se souvenir, je crois, que 2 ans avant la sortie remarquée de Jean Ping que je viens de citer, l'Union africaine avait pris une décision collective, je dis bien collective, de ne pas respecter le mandat émis à l'époque à l'encontre du président soudanais Omar el-Béchir. On voit donc que les relations tendues de l'Union africaine avec la CPI ne datent pas d'hier, et pourtant cette CPI ne date que de 2002. Donc après avoir posé ce contexte, il faudra aussi examiner les motivations de fond, comme l'a examiné Jean Ping. Je rappelle, il disait en substance que le procureur ne condamne et ne juge que des Africains, pourquoi personne d'autre n'est jugé, sauf des Africains. Et il citait toute une série d'autres exemples. Donc, le problème de la CPI aujourd'hui, c'est qu'elle a perdu de son aura, et surtout que l'on ne la voit plus comme un organisme judiciaire impartial. Et d'ailleurs la chute de l'intervention de Monsieur Jean Ping à l'époque président de la Commission africaine en 2011, c'était de dire que Ocampo, entre parenthèses, c'était l'ancien procureur de la Cour pénale internationale, ne fait pas de droit, il fait de la politique. Et c'est bien là le fond de l'affaire, parce que considéré sous cet angle, qui est le reflet d'une stricte vérité attestée par les faits, on va dire, la question du maintien ou du retrait des pays africains de la CPI devient légitime, même si la démarche envisagée pose des problèmes d'ordre juridique.
D'accord.
Voilà.
D'accord. Merci quand même pour ce développement et sur le retrait des pays africains de la CPI que demande le chef d'État africain. Nous allons également demander l'avis de notre deuxième invité, Alain Jules. J'espère que vous avez suivi le développement ou bien de François Fabrega. Alors pourquoi, selon vous, les chefs d'État africains menacent-ils de se retirer de la CPI 11 ans après quand même, hein, Alain Jules?
Déjà, je le dis tout de go comme ça et d'entrée, pour ce retrait-là. Simplement parce que la CPI aujourd'hui, n'est-ce pas, une idée pourtant très belle qui a germé pendant plus d'un siècle avant de voir le jour, n'est-ce pas, en 2002, hein, le 1er juillet. Malheureusement, le traitement de cette cour est complètement discriminatoire. Je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. D'autant plus qu'on voit très bien ceux qui sont condamnés aujourd'hui par la CPI, ce sont uniquement, essentiellement, des Africains. À partir de ce postulat-là, on se dit qu'il y a quand même des problèmes. Pourquoi ? Simplement parce que les autres pays ont fait la guerre. Et on fait le coup de feu. Les pays européens ou occidentaux ont fait la guerre à la Libye. Donc, on sait ce qui s'est passé en Libye. Pourquoi ces gens-là, derrière, ne sont pas accusés de crimes de guerre et autres ? Moi, j'ai les réponses. Donc, c'est simplement, comme Jean Ping le disait, il parlait tout à l'heure de M. Jean Ping, c'est une institution politique, simplement, et puis néocoloniale, pour mettre au pas les Africains. Je crois qu'il n'y a pas de doute possible. Et bien évidemment, malheureusement, il y a des Africains qui nous disent aujourd'hui, je veux dire, des intellectuels très malhonnêtes, parce que bon, ils ne sont pas peut-être au pouvoir et veulent arriver au pouvoir, qui nous disent que mais oui, les chefs d'État africains veulent quitter la CPI en bloc simplement pour l'impunité. Je crois que là, c'est un faux débat. Il ne s'agit pas d'impunité, mais il s'agit d'une violence incroyable, d'une cour. Regardez par exemple, je ne dis pas que ce sont des femmes, bien évidemment, regardez par exemple ce qui se passe avec le président et le vice-président kényan. À partir du moment où le peuple kényan a élu ces deux personnalités-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au sein même du Kenya, le peuple, s'il y a eu des exactions, le peuple a fait table rase de tout ça. Au nom de quoi, des gens élus, on les appelle encore, si ce n'est pas pour créer des troubles, notamment au Kenya. Donc, on se pose des questions. Il y a toujours des faits qui ne collent pas très bien par rapport à la CPI. Et puis bon, il suffit de lire. Il suffit de lire pour comprendre, parce que, par exemple, la France, je vais vous dire, beaucoup de gens ne le sont pas au courant, mais il faut lire le droit français, il faut lire le droit pénal français, il faut lire le droit aux États-Unis. Faut-il rappeler à ces Africains-là que les États-Unis n'ont jamais ratifié la CPI? Donc, il y a une grosse escroquerie des pays occidentaux qui, quelque part, financent cette CPI-là et qui fait, justement, la loi essentiellement en Afrique. Savez-vous que, bien qu'affichant son soutien à la CPI, la France, bien que comptant parmi les pays qui résistent le plus fermement à l'acharnement, justement, des États-Unis contre cette institution juridictionnelle, la France, en effet, s'est singularisée en se soustrayant à la compétence de la Cour pour l'un des trois, pour l'une, pardon, des trois catégories de crimes qui sont de son ressort, c'est-à-dire les crimes de guerre. Est-ce que les gens le savent? Donc, de plus, elle n'a transposé que de façon très incomplète le statut de la CPI dans son droit interne et n'a pas procédé aux aménagements du code pénal qui impliquerait l'intégration des définitions des crimes figurant à ce statut justement-là, c'est-à-dire le statut de Rome. Donc, le droit français n'est pas en retard en ce qui concerne, bien évidemment, le génocide ou encore les crimes contre l'humanité. Il est, en revanche, pour les crimes de guerre.
D'accord.
C'est très important. C'est pourquoi? Parce que ces gens-là savent qu'ils font de la guerre.
Merci.
Alors, ces incriminations sont de l'escroquerie.
D'accord.
Sur les Africains.
D'accord. On va quand même continuer le débat. Et là, vous affirmez que vous êtes pour ce retrait. On va y revenir pour que vous nous donniez vos raisons également ou vos propositions. Enfin, François Fabregas, et là, justement, on va aller droit au but. Hein. Est-ce que vous êtes pour ou contre ce retrait de la CPI que demandent les chefs d'État africains?
Mais tel que Alain vient d'exposer les choses, ou tel que je les ai exposées moi-même, on ne peut décemment qu'être contre. Et à ce titre-là, je le suis. Mais attention, dire je suis contre et ne pas développer des tenants et des aboutissants serait une erreur.
À mon avis,
oui. Nous aurions tort de considérer cette question de la CPI d'un point de vue juridique, alors qu'il s'agit d'un problème qui est éminemment politique, et Alain Jules vient de le dire en filigrane il y a quelques instants.
Oui.
L'idéal, parce que, alors, quand je dis je suis contre le retrait, après j'assortis cela d'un certain nombre de conditions, parce que cette question quand même porte en elle-même une autre question qui concerne les pays africains eux-mêmes, puisque moi, j'interviens dans un mouvement qui s'appelle CVU Togo Diaspora, qui concerne l'actualité du Togo, et là, nous sommes quand même bien placés pour nous rendre compte que la justice de notre pays ne fait pas le boulot comme elle devrait le faire. Hein. Et la question de savoir, ok pour le retrait des pays africains de la Cour pénale internationale, entièrement d'accord. Maintenant, je pose la question, que faisons-nous à la place?
Justement,
ce que j'aurais aimé, permettez-moi Sylvain, deux secondes,
oui, allez-y.
Ce que j'aurais aimé,
oui.
C'est que dans le débat qui s'est instauré le 11 octobre à Addis Abeba, qu'émerge des propositions concrètes de la part de l'Union africaine, puisque là, il s'agissait d'une réunion au sommet des chefs d'État et de gouvernement. Mais à ce jour, je n'ai rien vu qui transparaisse d'une quelconque proposition allant dans le sens, comment on fait si on se sépare de la Cour de justice internationale, ce que je pense qu'il faut faire.
D'accord.
Parce qu'elle est complètement discréditée aujourd'hui.
Oui.
Si je m'en tiens à l'analyse du cas de la Côte d'Ivoire, qui est le plus flagrant ces derniers temps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut poser des autres questions, et j'espère que dans le débat, nous allons y revenir, parce qu'on ne peut pas se contenter de dire « on sort », mais qu'est-ce qu'on fait derrière?
Exactement, c'est la question que je voulais vous poser pour qu'on soit un petit peu explicite, puisque les auditeurs,
alors,
les veulent comprendre.
Alors,
attendez deux secondes, vous êtes contre, la sortie...
Non, j'ai pas dit que j'étais contre la sortie, j'ai dit je suis pour quitter la Cour pénale internationale, à une condition. C'est que nous créons en tant qu'Africains les conditions pour que nous ayons un organisme correspondant ou que la justice
de chaque pays soit en mesure de
punir les crimes qui sont commis ou qui ont été commis.
Donc, c'est-à-dire que vous doutez de la crédibilité des justices en Afrique.
C'est pas que je doute de la crédibilité des justices en Afrique. Je vais vous prendre deux exemples qui me viennent immédiatement à l'esprit. Voilà, un exemple simple qui est dicté par la récente actualité du Togo. Au Togo, on a mis des années avant de faire une commission vérité, justice et réconciliation chargée de balayer le spectre de 40 ans de violence politique au Togo. Cette cour, elle a rendu un rapport qui ressemble aujourd'hui à un livre d'histoire plus qu'à un rapport de vérité, justice et réconciliation. Parce que, pratiquement 2 ans après que ce rapport ait été rendu, aucun tribunal ne s'est encore saisi des travaux et des conclusions qu'elle a rendues pour entamer les procédures judiciaires qui devraient normalement en découler. Voyez, je prends le deuxième exemple pour étayer, à contrario, la situation du Togo. En Afrique du Sud, quand l'apartheid a pris fin, ce sont des tribunaux sud-africains qui ont jugé les auteurs des exactions commises durant cette période, après que la commission Vérité, Justice et Réconciliation ait fait émerger les responsabilités des uns et des autres à l'issue des travaux. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a certains pays où il y a une justice qui fonctionne à peu près correctement et qui permet de mettre en œuvre ce que je viens de dire. Vous avez un autre pays, celui du Togo, que je connais particulièrement bien, où ça n'a pas été possible. Donc au Togo, c'est le règne de l'impunité. Si l'on sort et si l'on n'a plus le chapeau d'une cour supranationale récemment, et j'en termine là pour le cas précis, le Togo a été condamné par la CDAO, par la Cour de justice supranationale de la CDAO, c'est une Cour de justice africaine, c'est pas une Cour européenne, dans l'histoire des 9 députés de l'ANC qui avaient été exclus, le gouvernement togolais n'a jamais respecté la décision de réintégrer les députés. Alors on peut pas dire, vous comprenez, je sors de la Cour de justice internationale de la CPI, entièrement d'accord, et je suis pour en sortir, sans dire en même temps, voilà comment nous allons faire. Voilà d'accord. Ce que je voulais dire.
D'accord, ok, d'accord. On va continuer ce débat avant de relancer Alain Jules, qui pense, ou bien qui affirme qu'il est effectivement pour le retrait des pays africains. Il va quand même nous expliquer ou nous proposer effectivement ce qu'il faut pour quand même que la justice se fasse comme cela se doit. Et je vous propose de suivre également l'opinion d'un de nos auditeurs. Il est panafricaniste.
Bonjour chers amis, bonjour chers auditeurs. Mon nom c'est Abdoul Koudoussi Baldé. Je réside à Genève. Donc moi, ma position par rapport à cette demande de nos chefs d'État africains de se retirer de la Cour pénale internationale, pour moi c'est quelque chose d'inacceptable et ahurissant à l'égard des peuples africains. Parce qu'il ne faudrait pas toujours donner raison à ceux qui pensent que l'Afrique ne mérite que le bas de gamme, que ce soit en économie ou en politique. Parce qu'aujourd'hui, nous savons, au niveau de nos États africains, nous n'avons pas encore pu, en tant que peuple, imposer des chefs d'État qui peuvent quand même garantir la justice intérieure. Tant que cela n'est pas fait, c'est la Cour pénale internationale qui va être notre référence pour quand même demander des comptes à ceux qui massacrent encore leur propre peuple. Donc pour moi, c'est une demande vraiment qui désabuse le peuple africain. Donc ils doivent être traduits, tous ces chefs d'État africains qui se rendraient coupables d'exactions, de violations des droits humains, doivent quand même répondre devant cette cour pour rendre de compte. Ça, c'est ma position. Donc, moi, je pense, encore une fois, que nous ne devons pas accepter que des criminels, quel que soit au nom d'une soi-disant stabilité, arrivent au pouvoir en Afrique et continuent encore à désabuser le peuple africain. Donc, ils doivent répondre de leurs actes. Je sais qu'il y a une certaine opinion qui soutient qu'il faut, voilà, des fois on fait élire des criminels au nom de la stabilité. Nous devons mettre fin à cette situation-là. Quand quelqu'un est coupable de violation des droits humains, ou même ce qui s'est passé au Kenya et ailleurs, qui sont même coupables de violation de droits humanitaires, parce qu'on peut dire tout ça, donc ces gens-là doivent répondre de leur forfaiture.
Radio Denis Bon, basé aux USA, partenaire de Fenêtres sur l'Afrique.
Eh bien, retour au studio de Radio Canal K dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique, débat qui oppose Alain Jules et François Fabregas. Tous deux interviennent en direct depuis la France, justement, et c'est à propos de ce retrait des pays africains de la CPI que demandent les chefs d'État africains. Alors Alain Jules, vous dites que vous êtes pour, alors cet auditeur est carrément contre. Il pense que oui, la Cour pénale internationale doit continuer son travail, puisque en Afrique, et selon lui, il doute de la justice en Afrique. Dans beaucoup de pays, la justice se fait pas. Donc, il revient à la CPI de prendre ses responsabilités et de faire justice et pour les opprimés, ceux qui sont les victimes, ceux qui subissent les agressions, la dictature en Afrique. Alain Jules, quelle est votre réaction après avoir suivi la réaction de cet auditeur?
Oui, mais justement, quand j'ai suivi l'auditeur, c'est ce genre de comportement-là qui me désole. Quand j'entends un Africain parler de ça, et qui plus est, il parle de bas de gamme, une justice bas de gamme. Croit-il, pense-t-il un seul instant, alors que c'est une institution complètement politique, que la CPI est une institution haut de gamme? Je crois que là, c'est un faux débat. Je ne veux pas être méchant, mais j'ai l'impression que ce sont des gens qui suivent un peu trop les médias occidentaux, et peut-être même essentiellement les médias occidentaux. C'est-à-dire qu'on assiste, avec le propos de ce monsieur, à ce qu'on appelle en fait le masochisme africain. C'est-à-dire que une autoflagellation, l'Africain a toujours l'impression que les autres sont meilleurs que lui. Et il a l'impression que, même s'il est médecin, que le médecin qui est sorti dans une école occidentale est plus compétent que lui, etc., etc. C'est vrai que quelque part, moi je veux dire, ce qui s'est passé à Addis Abeba, c'est de la mascarade. Moi, je suis contre des gens qui jouent juste sur des effets d'annonce. Pourquoi? Ben simplement parce qu'ils annoncent un truc, ils font le contraire. On va sortir en bloc, finalement on ne sort pas. Nous demandons simplement que le jugement du président Kenya soit, qu'on sursoit ce jugement, etc. Sincèrement, c'est de l'enfumage.
Oui, Alain Jules. Alors, je vous comprends, là, et pour cet auditeur, il dit, hein, il ne croit pas à la justice en Afrique. Est-ce que vous croyez sincèrement, à la justice africaine, que cette justice-là, elle est compétente pour juger, ces chefs d'État ou ces hommes politiques qui commettent des exactions sur de paisibles citoyens? Qu'est-ce que vous proposez concrètement, Alain Jules?
Elle n'existe pas, on va dire. Mais je voulais conclure par là, c'est-à-dire que, qu'on mette en place en Afrique, parce qu'il est temps quand même qu'on se prenne en charge. Ce n'est pas possible, ça va durer une éternité quand même. C'est-à-dire que 50 ans après les indépendances, on a encore à regarder ce qui se passe en Occident pour décider de notre sort. C'est une catastrophe. Nous sommes quand même des êtres humains et on ne va pas être comme le cacao, n'est-ce pas, ou le café, n'est-ce pas, qui est traité, c'est-à-dire les prix sont dictés par l'Occident. Je crois que nous, il faut qu'on se prenne en charge. L'homme africain doit se réhabiliter. L'homme africain doit prendre conscience de ses capacités et de ses valeurs morales. Alors, bien évidemment, il n'y a pas un tribunal comme celui-là, mais sortir de la CPI, il faut mettre en place des choses, on va dire, je le dis comme ça, hein, ça me vient à l'esprit par mimétisme, une espèce de CPA, on va dire Cour pénale africaine. C'est-à-dire que cette Cour pénale africaine, qu'elle puisse juger justement ceux qui font des exactions, les chefs d'État, etc. C'est-à-dire qu'on part sur une base où tout le monde signe. Et puis, dit en passant, pourquoi les États-Unis n'ont pas ratifié le traité de Rome? Il faut réfléchir par rapport à ça. À partir du moment où la CPI est une institution onusienne, à partir de ce moment-là, que l'ONU fasse ce qu'elle doit faire, c'est-à-dire que exiger que tous les pays qui sont membres des Nations Unies signent le traité de Rome. Et je crois que les choses seront beaucoup plus claires. Pas qu'un pays fait semblant de signer, d'être avec le traité, comme ce que je dis par rapport à la France, alors qu'ils n'admettent pas dans leur droit pénal les crimes de guerre. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est eux qui font les guerres, d'accord, à gauche ou à droite.
D'accord.
Donc voilà, je crois que c'est la première base.
Oui.
À partir du moment où l'ONU ne fait pas ce travail-là,
Tout est biaisé.
D'accord, on
tout
va voir.
Tout est biaisé.
On va voir ce que pense aussi François Fabrega. Vous avez suivi la réaction, bien, ouais, la réaction de cet auditeur. Lui, il dit que non, les pays africains ne doivent pas sortir, ne doivent pas se retirer de la Cour pénale internationale parce que lui ne croit pas à la justice africaine. Et qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez réagir également par rapport à ce que vient d'affirmer Alain Jules, François Fabrega.
Alain Jules a raison, mais je ne partage pas son appréciation, je ne partage pas complètement son appréciation sur l'intervention de notre auditeur.
Mm-hmm, allez-y, oui.
Je vais vous dire pourquoi je ne partage pas. Il faut pas prendre les choses comme ça. Je vais partir pour parler de la justice en Afrique, je vais partir loin de chez nous. Je vais partir loin de chez nous, mais à la fois très près. La justice, c'est quoi? C'est aussi une question de rapport de force politique. C'est pas uniquement une question de droit juridictionnel, c'est une question de rapport de force politique. Et je vais partir loin de notre continent, je vais partir de l'autre côté de l'Atlantique pour examiner ce qui vient de se passer au mois de mai dernier au Guatemala. Au Guatemala, c'est un pays dont la justice du guatémaltèque a condamné au mois de mai 2013 l'ancien président, je dis bien l'ancien président, pas un comparse, pas un ancien ministre ou un ancien général, José Efraín Ríos Montt. Elle l'a condamné à plus de 80 ans de prison pour génocide commis à l'intérieur du pays. C'est la justice du Guatemala, c'est pas la justice internationale ou c'est pas une cour pénale internationale. Ce que je veux dire par là, ce que je veux expliquer, c'est que en Amérique du Sud, depuis une vingtaine d'années, on a assisté à un basculement politique qui a sensiblement fait passer la quasi-totalité de ces pays qui étaient des dictatures à des démocraties, mais je dis bien à des vraies démocraties. Alors, les avancées sont parfois chaotiques, mais il y a des avancées. Et à quoi a-t-on assisté? Le Guatemala a condamné Ríos Montt. Le Chili, qui n'a pas pu le faire avec Pinochet parce qu'il est mort entre-temps, a condamné aussi des exactions. Les tribunaux chiliens, les tribunaux argentins ont aussi condamné ceux qui avaient commis des exactions pendant les coups d'État. C'est la justice de ces pays. Est-ce que la question que nous devons nous poser à partir de ce moment-là, est-ce qu'en Afrique, nous sommes capables aujourd'hui de faire ce qu'a fait le Guatemala, de faire ce qu'a fait l'Argentine, de faire ce qu'a fait le Chili? Je ne le crois pas. Combien de démocraties, quand nous sommes en Afrique avec des pays, c'est le cas du Togo, où le type il est président, ils sont présidents de père en fils depuis 42 ans sans aucune démocratie, sans aucune séparation des pouvoirs. Je rappelle que quand Fornia Singbe est arrivé au pouvoir en 2005, il y a un rapport de l'ONU qui a établi qu'il y avait eu 800 morts. 800 morts, c'est pas rien. Hein? C'est l'équivalent de ce pourquoi le Guatemala a condamné Ríos Montt. Est-ce que vous voyez aujourd'hui la justice togolaise être capable de juger Fornia Singbe qui est directement responsable puisque c'est lui qui était à la manœuvre?
Justement,
avec son
frère Fornia Singbe? C'est la grande question.
C'est ça la question que nous devons nous poser.
Sûr,
Moi, je veux bien examiner toutes les autres considérations.
Oui.
Et ça, malheureusement, le sentiment de millions d'Africains qui vivent aujourd'hui sous des gouvernements où il n'y a aucune alternance, où les types sont au pouvoir de père en fils pendant des décennies, on peut les comprendre. On peut les comprendre quand ils disent si le verrou de la CPI que je conteste totalement aujourd'hui, et je l'ai dit, je suis très clair là-dessus, hein, et examinons le cas de la Côte d'Ivoire pour le comprendre, c'est une organisation qui fait de la politique et qui ne fait pas de la justice, mais
justement,
néanmoins, si ce verrou saute, nous n'avons plus rien pour l'instant,
d'accord.
Puisque je suis d'accord avec l'opinion d'Alain Jules tout à l'heure, quand il dit, la réunion d'Addis Abeba, c'est de l'enfumage, mais nous, en tant qu'observateurs, en tant que commentateurs de la vie politique africaine, nous avons le devoir de dire de dénoncer cet enfumage et aussi d'exiger et de proposer à nos auditeurs qui se mobilisent pour exiger de leur gouvernement que si on quitte la CPI, on prenne des dispositions pour que on ait sur le sol africain des juridictions qui sont capables de faire le boulot. Voilà,
d'accord.
C'est ça que je voulais dire.
Merci beaucoup François Fabrega. Je retourne vers Alain Jules. Et bien avant de vous soumettre ou de vous laisser réagir par rapport à ce que vient de dire François Fabrega,
écouter cette affirmation de du monseigneur Desmond Tutu, le Sud-Africain prix Nobel de la paix. Il dit, hein, notre inquiétude n'est pas le retrait de la CPI, mais que les auteurs des crimes puissent être poursuivis par des juridictions africaines indépendantes et crédibles afin de délivrer un permis de tuer, de mutiler et d'oppresser en toute impunité. Et c'est ce qu'avait affirmé Desmond Tutu, je viens de le dire. Alors, que vous inspire cette affirmation de cet homme de Dieu? Et vous pouvez aussi réagir par rapport à ce que vient de dire François Fabrega, Alain Jules.
Bah écoutez, j'ai ri aux larmes quand j'ai entendu, enfin quand j'ai lu la sortie du prix Nobel de la paix Desmond Tutu. Je l'ai rire encore plus quand on sait par exemple que l'Afrique du Sud, c'est-à-dire que ces gens-là, que ce soit Mandela ou que ce soit Desmond Tutu, vous croyez que ces gens-là ont eu les prix Nobel pourquoi? Ils ont eu le prix Nobel simplement parce que ils ont mis en place un système judiciaire inexistant, c'est-à-dire que on a pardonné à tous qui ont, à tous ces criminels-là, qui étaient dans l'apartheid à fond jusqu'au bout des ongles. Donc, il y a eu la réconciliation, on va dire, cette réconciliation nationale en Afrique du Sud. Donc, on n'a jugé personne. Donc, quand il dit oui, voilà, les gens seront impunis, on se pose des questions. Pourquoi ils n'ont pas puni eux, ceux qui ont tué des Noirs à gauche ou à droite à Soweto, par exemple? Pourquoi ils n'ont pas jugé ces gens-là? Chercher l'erreur. Maintenant, on voit très bien les qui, je mets les qui entre guillemets, ont des prix Nobel en Afrique, si vous voyez très bien. Alors, maintenant, finalement, on accepte tout. Pourquoi la CPI, aujourd'hui, qui sait très bien que le M23 en RDC est parrainé par le Rwanda, ne poursuit pas le président Kagame? Je crois qu'il y a des choses simples à comprendre pour dire que finalement la CPI, c'est une connerie. Franchement, je pèse mes mots. Et bien évidemment aussi, de l'autre côté, les chefs d'État africains, c'est juste une promenade, on va quitter une fausse menace. Pourquoi? Parce que ils ont peur de tout, ces gens-là, ces chefs d'État africains, même de leur ombre. C'est malheureux de le dire, parce que tel ou tel chef d'État, je ne les cite pas, quand, par exemple, je parle de la chasse gardée française, vous croyez que ces gens peuvent partir de la CPI si François Hollande leur dit non, vous ne partez pas? Donc on sait que c'est de la gesticulation et c'est ridicule. Donc c'est pour cela qu'effectivement on peut débattre là-dessus. Bon, j'entends bien, je comprends ceux qui disent que oui, voilà, l'impunité, etc. Mais l'impunité existera toujours. Il suffira d'être l'ami des Américains, comme Kagame. Et aujourd'hui on voit très bien, bon, les Américains font semblant de lâcher. Mais voyez-vous, moi personnellement, tant que la CPI, c'est-à-dire la plus grande puissance du monde, c'est-à-dire les États-Unis, ne ratifie pas le traité de Rome, la CPI, pour moi, c'est une coquille vide. Et les Africains qui y restent, c'est leur problème.
D'accord.
On me dit qu'ils se font manipuler.
Là, c'est clair pour vous. Hein. Il faut que les pays africains se retirent de la CPI. Alors, est-ce que vous croyez concrètement à une construction d'une juridiction africaine indépendante et crédible pour quand même pour éviter, hein, un permis de tuer, de mutiler, de presser comme l'a affirmé Desmond Tutu à l'injure?
Oui, on est tous contre ça. On est contre ça, bien évidemment. Moi, je suis anti-guerre. Tout le monde le sait ici en France. Je suis un militant anti-guerre. Moi, partout où on dit qu'on fait la guerre, je suis contre. Donc, à partir de là, si derrière la guerre, il y a des mutilations et des trucs, des gens qui commettent ce genre de crimes-là doivent être condamnés. Pourquoi ceux qui sont allés bombarder en violant la résolution 1973 en Libye, pourquoi ils ne sont pas poursuivis? Ils n'étaient pas partis en Libye pour faire un coup d'État, parce que c'est de ça qu'il s'agit, il y a eu un coup d'État en Libye. Quelle caisse de l'ONU l'a décidé? Pourquoi Barack Obama, François Hollande, c'était Nicolas Sarkozy, David Cameron, pourquoi la CPI n'a pas accusé ces gens-là de crimes de guerre? Voilà la vraie question.
D'accord.
Donc, quand j'entends les Africains qui ne font pas le rapprochement,
d'accord,
avec les États-Unis et la CPI, et et l'Afrique, etc., avec l'assassinat macabre du frère Guy de Muammar Kadhafi.
D'accord.
Je dis que les Africains sont perdus.
D'accord. On tire pratiquement vers la fin de ce débat. On va quand même laisser François Frabega réagir dessus. Vous avez suivi Alain Jules, François Frabega.
J'ai très bien suivi. Moi, ce que je voulais simplement rajouter, c'est que je renvoie ces chefs d'État africains qui ont pris cette décision à leur responsabilité. Aujourd'hui, il y a un de leurs homologues. Charles Taylor a été condamné. Ok. Hein, je crois que ce qui s'est passé dans son pays ne plaide pas en sa faveur. Et qu'il ait été condamné, celui-là, je vais pas pleurer sur son sort, parce que moi, je suis comme Alain Jules, je suis contre la guerre à n'importe quel prix. D'accord? Ça, c'est le premier point. Mais par ailleurs, je ne pense pas que dans la situation de la... Alain Jules parlait de la Libye, mais il faut aussi parler de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, ça n'a pas été une promenade de santé de la part de Sarkozy là-bas et des Français. Hein? Et aujourd'hui, il y a quand même Gbagbo qui se trouve au truc. Je ne pense pas qu'on puisse comparer Gbagbo à Charles Taylor ou à Milosevic. Hein? Et je n'ai entendu, à l'exception d'un seul, qui est un ancien chef d'État qui n'est pas en exercice aujourd'hui, je n'ai entendu aucun chef d'État africain en exercice aller pleurer sur le sort de Gbagbo. Il ne s'agit pas de pleurer sur le sort de Gbagbo, il s'agit d'exiger que dans le traitement du cas de la Côte d'Ivoire, les choses soient plus équitables. Parce qu'aujourd'hui, on assiste à quoi ? Gbagbo est à la CPI, la même CPI vient de demander Blé Goudé, mais elle accepte tranquillement que Guillaume Soro se soit réfugié derrière son immunité parlementaire en tant que président de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que c'est la justice des vainqueurs. Alors effectivement, cette CPI-là, moi, que les Américains ou les Français la ratifient ou pas, elle est complètement discréditée. C'est un instrument politique, ce n'est pas un instrument judiciaire.
Justement,
moi, personnellement, ce que je crois,
c'est
qu'il appartient au peuple d'inverser le rapport de force chez eux et de créer et d'imposer que la justice fasse son travail dans leur propre pays. Mais pour ça, effectivement, il faut renverser des régimes qui sont complètement antidémocratiques. Et comme dans nombre de pays, comme c'est le cas malheureusement en Afrique aujourd'hui. Voilà,
justement,
c'est ça le fond du problème.
Exactement.
Puisque je dis bien que c'est un problème qui n'est pas juridique, mais qui est politique à mes yeux. Voilà.
D'accord.
Ce que je voulais dire.
Alain Jules, nous tirons pratiquement vers la fin de ce débat. Alors, que direz-vous pour conclure ce débat, Alain Jules ?
Ben oui, pour conclure, je dirais d'abord que oui, je partage aussi bien évidemment l'avis de François Frabega. En revanche, c'est aussi un cas que j'ai failli oublier, c'est le cas justement de Laurent Gbagbo. Donc, à partir de là, je me dis qu'on se contredit, c'est-à-dire les Africains se contredisent. D'un côté, on voit comment Gbagbo, il n'y a aucune charge contre ce monsieur, qui se retrouve aujourd'hui enfermé à La Haye. Il y a de quoi se poser des questions. Ça veut dire simplement que ces gens se moquent de nous. C'est une institution politique, et une institution politique ne peut pas être là simplement pour jouer à la justice des vainqueurs. C'est triste. C'est la preuve avec la Libye, c'est la preuve avec Laurent Gbagbo. Donc voilà, il y a autant de griefs que j'ai contre la CPI que je me dis que rester à la CPI, c'est vraiment accepter d'être des caniches, de l'Occident.
On a compris votre position, François Frabega. Alors, retrait de la CPI, une prise de conscience des dirigeants africains ou une fuite en avant, quel sera votre mot de fin pour ce débat, François Frabega?
Mon mot de fin, je vais revenir très très brièvement à ce que je l'ai dit. Ce dont souffrent les Africains aujourd'hui chroniquement, comme nombre d'autres pays, parce que ça n'est pas propre à l'Afrique, c'est du déficit, de l'énorme déficit démocratique dans un très grand nombre de pays d'Afrique. C'est de ça. À partir du moment où vous avez une démocratie qui fonctionne, eh bien vous pouvez faire fonctionner des institutions. Tant que vous n'êtes pas capable d'instaurer cette démocratie, vous aurez y compris un déficit institutionnel, dans la mesure où, bien sûr, comme il s'agit de dictature ou de régime autocrate, il n'y a plus de séparation des pouvoirs entre le politique et le judiciaire. Donc, le maître mot, c'est de continuer inlassablement cette lutte pour la démocratie, et chaque fois qu'il y a un peuple africain qui fait des étincelles pour essayer d'imposer cette démocratie, nous devons être derrière lui corps et âme pour les soutenir, parce que c'est par là que passera le problème de l'institution judiciaire et la possibilité de lutter enfin contre cette impunité. Voilà ce que je voulais dire.
Merci.
Et je remercie Alain aussi pour pour ses appréciations très pertinentes, parce que le fond du problème, je crois, est celui-là.
Justement, voilà. Justement. En tout cas, merci beaucoup, messieurs Alain Jules et messieurs François Fabregat, d'avoir participé à ce débat panafricain, justement, et sur le retrait des pays africains de la CPI, retrait que demandent ces chefs d'État il y a quelques jours en réunion à Addis Abeba. J'espère que nous nous retrouverons d'ici quelques semaines pour d'autres débats. Merci et bonsoir chez vous.
Oui, merci de votre invitation.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Le Togo. Notre dénigrement se meurt politiquement, socialement et économiquement.
Sans sanglant, sans sanglant,
pour ce faire, le collectif de résistance de la diaspora CRD Togo lance un appel patriotique pressant à toutes les filles et tous les fils du Togo tout entier, spécialement la diaspora, pour le ralliement du front de la résistance citoyenne.
Oui, d'accord. Avion, la voie.
Chaque contribution, quelle qu'elle soit, est déterminante pour réussir la mission de restauration citoyenne de la terre de nos aïeux.
Pour toute contribution financière, contactez les responsables du CRD au 0041 78 676 51 62.
0041 76 378 02 77.
Merci pour vos dons financiers au CRD. Togolais, viens, bâtissons la cité. Fenêtre sur l'Afrique avec Sylvain Amos et son équipe. Romain Koudjodi, Lucien Roncalli, Fabi Kouassi, Josué Maoli et Esteban Gagno. Fenêtre sur l'Afrique, c'est sur Radio Canal K.
Eh bien, merci. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci à tous nos amis panafricanistes. Merci à tous nos invités et d'avoir contribué à la réalisation de cette émission, de ce débat panafricain. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain, même heure, même studio. Excellente soirée à toutes et à tous.